Les journées de l'économie. GECO.
Il y a une expertise qui a été faite par les économistes et aujourd'hui, on se retrouve toujours dans une situation, on se demande pourquoi on n'agit pas.
Roger Guenry, bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation au micro de Transistor, la web radio de l'ENS Lyon. Je fais une très brève présentation de votre parcours qui pourtant, lui, est très long. Vous êtes professeur au Collège de France en économie du changement climatique et votre chaire s'appelle justement, d'où la nécessité de la modification, théorie économique et organisation sociale. Vous êtes également directeur de l'école d'économie de Paris qu'on appelle l'APSE.
Président d'honneur.
Président d'honneur de l'école d'économie.
Ça va bien 3 semaines.
Première question, Roger Guenry, que peut apporter comme éclairage un économiste sur les questions climatiques? Est-ce que son expertise lui permet de proposer une prospective avec différents scénarios, une recherche des mécanismes d'incitation pour corriger certains comportements, une évaluation des coûts de politique publique en faveur de l'environnement? Est-ce que vous avez des pistes, enfin, est-ce que vous avez d'autres idées ou approfondir?
Il y a pas mal de chapitres du savoir économique qui renvoie au problème climatique, où il y a le problème climatique renvoie à pas mal de chapitres du problème du savoir économique, comme par exemple la qualité du climat, c'est ce qu'on appelle dans les manuels un bien collectif, et un bien collectif global qui concerne l'ensemble des citoyens du monde, hein, et donc les biens collectifs, il y a toute une réflexion économique sur ce sujet, et cette réflexion économique, elle peut évidemment servir à réfléchir les problèmes de gouvernance et de gouvernance mondiale que pose le problème climatique. Autre chapitre du savoir auquel renvoie le problème du climat, c'est le problème de l'environnement. L'économie de l'environnement, c'est un sous-chapitre de l'économie. Et les économistes sont une réflexion, un capital de réflexion sur les politiques économiques en matière d'environnement, hein, dans lequel ils distinguent les outils réglementaires, dans lesquels vous dites vous ne devez pas polluer plus de temps et au-delà, vous mettez des pénalités très fortes ou je vous mets en prison. Et puis il y a les instruments économiques qui conduisent à donner un prix à la pollution, un prix que doit payer le pollueur d'une manière ou d'une autre. En fait, il y a 3 instruments économiques habituellement dans ce qu'on dit dans les manuels. Il y a la taxe. Vous faites payer le pollueur proportionnellement à sa pollution en utilisant une taxe et un certain taux de taxe. Il y a la subvention. Vous le subventionnez pour dépolluer. Alors vous allez dire c'est exactement le contraire. Mais du point de vue de la logique économique, c'est à peu près la même chose. Puisque si le prix, si la taxe a une valeur qui est égale à la valeur de la subvention, vous avez la même incitation à la marge pour dépolluer. Et puis il y a le marché de permis, qui est une solution qui a été mise en œuvre plus récemment à des échelles assez grandes, en particulier aux États-Unis, et qui consiste à donner à tous les pollueurs potentiels des droits, mais de telle sorte que la somme des droits que vous leur donnez est évidemment très inférieure à ce qu'ils feraient spontanément. Et ils échangent ces droits sur un marché, ce qui veut dire que ceux qui ont des manières de dépolluer peu coûteuses vendent des droits à ceux qui ont des manières de dépolluer très coûteuses. Mais ça permet de contrôler la performance environnementale. Par contre, on ne sait pas d'avance à quel prix ça va. Le marché va être équilibré, ex ante. Donc voilà, donc il y a beaucoup de chapitres du savoir économique qui sont connectés plus ou moins directement, dans lesquels on peut faire des connexions avec les problèmes climatiques.
Alors, vous évoquez la question justement de la difficulté de fixer le prix. Et dans la conférence de ce matin, donc qui vient de se dérouler, intitulée Agir pour le climat, l'un des intervenants, Pierre-André de Chalandard, qui est le PDG de Saint-Gobain, soulignait l'importance d'une convergence sur les prix du carbone entre les différentes zones économiques mondiales pour réaliser une efficience de ces marchés que vous venez d'évoquer. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce serait souhaitable et quelles en seraient les conséquences en termes de réduction sur un moyen terme, dirons-nous, sur l'émission des gaz à effet de serre?
Oui, bah, c'est une idée de Monsieur Chalandard que j'approuve et que je crois que j'ai reprise sous d'autres formes. Les économistes pensent que si vous avez un prix unique du carbone et qu'il a, ça va engendrer un certain niveau de dépollution dans un espace donné, hein, l'espace mondial, l'espace national, l'espace européen, etc. Mais que ça permettra de faire que la dépollution soit faite au coût minimum. C'est-à-dire que la somme des coûts qui seront nécessaires pour obtenir le résultat associé à un certain prix du carbone, résultat qu'on ne connaît peut-être pas d'ailleurs d'avance, hein, sera plus faible s'il y a un seul prix. Alors ça ne veut pas dire que c'est très facile de faire un seul prix, parce que il faut aussi, dans un marché de quotas, si vous faites un marché, par exemple, un seul prix de la taxe, vous décidez du prix. Marché de quotas, vous avez à décider du prix et des quotas que vous donnez à chacun des participants. Et ça, c'est un problème très compliqué, et au niveau mondial, au niveau de la politique climatique, c'est un problème relativement insoluble auquel s'était heurté d'ailleurs déjà les mécanismes mis en place au moment du protocole de Kyoto.
Mais est-ce que le cœur du problème réside sur un niveau institutionnel de décision politique, ou est-ce que c'est au niveau même des mécanismes du marché
Non, le mécanisme est bon, mais quand vous décidez, par exemple, de donner à une nation, si vous mettez un marché de quotas, comme que j'ai appelé Super Kyoto ce matin, hein, si vous donnez à un pays un certain quota, ça veut dire que jusqu'à ce niveau-là, il n'a pas. Si sa pollution est inférieure au quota, il peut vendre, mais si elle est supérieure, il doit acheter. Et donc, vous voyez bien que les quotas que vous allez. La répartition des quotas, d'une certaine manière, c'est la répartition des coûts de la politique entre les participants. Et il n'y a pas d'instance décisionnelle au niveau du monde qui peut imposer la répartition des coûts. Elle ne peut provenir que d'un accord coopératif dans lequel on discute de cette répartition des coûts, etc. Et on ne sait pas comment faire, d'une certaine manière, puisque chacun est censé. En ce moment, il y a un problème très classique en matière de biens collectifs. Chacun annonce que il ne tient pas spécialement aux biens collectifs et qu'il n'est donc pas prêt à payer beaucoup. Voilà.
Et alors, est-ce que dans ce cas-là d'échec par manque d'attachement justement à la mise en place de tels marchés, est-ce que la taxe peut être une solution envisageable et intéressante parce qu'elle serait justement plus facile à mettre en place?
On peut arguer du fait que quelque chose qui ressemblerait à une taxe au niveau mondial serait plus facilement faisable. En fait, il y a des opinions très différentes sur ce que devrait être la bonne valeur de la taxe au travers des pays. Là, il y a à nouveau des désaccords. Ils sont plus unidimensionnels et moins multidimensionnels. Enfin, disons, ils portent. Comme vous avez une seule variable qui serait le niveau de la taxe, vous avez à vous mettre d'accord sur une seule variable. Lorsqu'il y a beaucoup de quotas, il faut que vous mettiez d'accord sur l'ensemble des quotas. Donc, c'est un problème plus complexe. Mais bon, par ailleurs, la taxe au niveau mondial aurait des inconvénients que n'a pas le marché. Mais c'est un petit peu, c'est un problème un peu plus corsé.
Un exemple très bref de problème que soulèverait la taxe par rapport au marché.
Ben c'est l'effet qu'aura cette tarification sur le prix des combustibles fossiles. Si vous mettez une taxe et si ça conduit les détenteurs de ressources fossiles à baisser leur prix, parce qu'évidemment, ils auront plus de mal à placer leur marchandises, c'est conduit à baisser leur prix, l'effet total de la taxe n'est pas garanti. Alors que si vous contrôlez les quantités et si vous laissez les prix s'ajuster pour que ces quantités soient maintenues, vous avez une certaine incertitude sur le prix qui fera ça, mais pas d'incertitude sur le fait que il y aura réduction des émissions de carburants fossiles.
Alors, en vous écoutant.
C'est un peu compliqué, hein, ce que je vous raconte.
Oui, mais c'est toujours intéressant. En vous écoutant, vous semblez, dernière question, un petit peu pessimiste quand même quant à la possibilité de tomber sur un accord. Que pensez-vous de ce qui va se passer donc fin novembre, début décembre, c'est-à-dire à Paris, la COP21? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à une solution intéressante, et qu'en pense un économiste comme vous?
Il y a deux choses. Hein. On peut voir dans ce qui va se passer à la COP. D'abord, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est qu'il y a quand même 140 pays qui acceptent de faire quelque chose. Ce qui n'est pas évident. Alors, ce qu'ils acceptent de faire, c'est, ce que, c'est le cadeau qu'ils mettent dans la corbeille. C'est sans trop de garantie qu'ils le feront vraiment, etc. C'est nettement en dessous de ce qu'il faudrait faire. Mais maintenant, ça, c'est le verre à moitié vide. Maintenant, est-ce qu'on ira plus loin ? C'est-à-dire qu'on mettra en place des mécanismes qui permettraient de mettre quelque chose qui ressemble à un prix du carbone qui serait sur des espaces relativement vastes et croissants. Est-ce qu'on va réussir à embrayer sur cette idée d'une manière ou d'une autre ? Moi, j'en sais rien, mais c'est ça la vraie question.
C'est tout l'enjeu au mois de décembre. Je vous remercie, Roger Guenry, d'avoir accepté notre interview.